c'est une épopée comorienne, un projet d'écriture qui sera mis en scène en juin prochain par Julie Kretschmar. Pour l'instant, c'est un feuilleton conté. Et pour l'instant aussi, c'est une résidence d'écriture qui associe un écrivain, Salima Tubou, et un anthropologue, Damir Ben Ali. Kara, c'est le diminutif de Karadjai, et c'est un guerrier qui vivait au 19e siècle sur l'île de Ngazidja, c'est-à-dire l'île de Grande Comore. On va parler tout à l'heure de son épopée, mais d'abord sur les sources de ce récit. Damir Ben Ali.
C'est un récit oral, parce que là-bas nous sommes dans une société de l'oralité, donc nous avons enregistré les récits, à plusieurs versions hein, de ces récits, de ces guerriers, et à une époque troublée, c'est une époque de crise qui a précédé la prise de possession du pays par la France. Donc, comme nous avons plusieurs sultans sur l'île, il y avait le sultan Saïd Ali qui était l'allié de la France, qui était en relation avec la France. Et puis, notre sultan, Msafoumou, les principaux, qui, lui, était en relation avec le sultan des Zanzibar, qui était l'allié des Anglais. Alors, les deux puissances, dans leur rivalité, fournissaient des armes à ces sultans. C'était une période de guerre qui était dramatique, parce qu'avant, les sultans se battaient, mais c'était des tournois. Ce sont des sultans des mêmes familles. Donc, les traditionnalistes appellent cela des guerres. Mais en fait, il n'y avait pas de pertes humaines importantes. Il y avait parfois des blessés. Mais là, c'était des guerres terribles, parce que ses alliés extérieurs fournissaient des armes à destruction. Donc il y a eu des massacres pour un enjeu qui n'était pas vraiment, qui ne valait pas vraiment la peine. Le pouvoir réel était détenu par des chefs de lignage. Le sultan n'a été qu'un président de séance et un porte-parole. La souveraineté était détenue par les femmes. C'est une société matrilinéaire, mais le sultan régnait comme représentant des femmes qui détenaient le pouvoir. Donc les chefs de lignée peuvent le destituer s'il a commis une faute. Voilà. Donc Karadjai a été d'abord du côté de Msafoumou, c'est par sa naissance, par sa famille. Mais il y a eu un conflit avec le sultan Msafoumou et il est passé du côté de Saïd Ali. Et comme c'est un très grand guerrier, alors ça balançait, ça changeait la donne.
Yezirijili ya oduniyaniye, yezakosha yezalelo. Yezirijili ya oduniyaniye, yezakosha yezalelo. Bom komorie, bomulobo saidiwa. Hem komorie, buwaye matoye.
Salima Tubou, comment est-ce qu'on passe d'une histoire orale, d'une tradition orale, à un processus d'écriture comme celui dans lequel vous êtes engagé en ce moment ?
En fait, moi, depuis à peu près bientôt une vingtaine d'années, je travaille avec l'oralité, c'est-à-dire que j'allais aux Comores, j'ai recueilli des contes, j'ai recueilli des histoires, quoi, que j'essayais de basculer à l'écrit. Et puis après, j'ai eu l'occasion de me rendre, je crois que c'était en 2005, pour justement faire des recherches sur ces épopées, sur ces belles histoires de sultans. Et puis voilà, l'idée est venue de là. Et comment on passe donc de l'oralité à l'écrit ? C'est d'essayer en fait de ne pas figer ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'il faut lui donner une âme. Souvent je dis que par exemple les recueils de contes, les livres de contes, c'est comme si c'était un cimetière de mots. Maintenant il faut essayer de faire vivre ces mots-là, et ces épopées-là. Elles ne sont belles que si elles sont racontées ou jouées. Donc on les écrit par nécessité de garder une trace, mais elles ne sont bien que quand elles sont dans l'oralité, quoi, finalement.
Damir Ben Ali.
Là, mon jeune ami est beaucoup plus à l'aise parce qu'il est bon conteur. Tandis que moi, je suis formé à l'écrit, j'essaie de faire passer au théâtre. Or, l'oralité, le récit oral est très différent du théâtre comme on l'entend. Le théâtre n'est pas dans la tradition comorienne parce que le récit oral, le conteur joue tous les rôles successivement, donc par son talent d'acteur, d'imitateur, de narrateur, il passe d'un registre à l'autre. Tandis que pour le théâtre, il faut des acteurs, il faut un espace symbolique.
Kutu lima kutu wala kutina unvunao. Kutu soma sa kutina unsomao. He mkomori he, womuiso wehijae. Bo mkomori he, womuro wo saidiwae. He mkomori he, buwae matoe. Yezirijili yao dunianye, yezakosha yezalelo. Yezirijili yao dunianye, yezakosha yezalelo. Kutina tabiri yekatindo ufanane mnaswara. Kutina hamu yekatinde maritaba ya unze. He mkumuri he, umiso wehijae. Bo mkumuri he, uvohulo wo saidi wae. Hem kumuri buwae matwe yezirijili ya uduniyanie yezakosha yezalelo yezirijili ya uduniyanie yezakosha yezalelo yezirijili ya uduniyanie yezakosha yezalelo.
Le récit de Kara, c'est classiquement celui d'une rivalité politique entre le Ntibé Msafumu et un certain Saïd Ali, qui se verrait bien Ntibé à la place du Ntibé. Et c'est le guerrier Kara qui va jouer un rôle essentiel dans cet affrontement. C'est au fond une histoire universelle, la politique, l'ambition, la trahison, ça pourrait être Shakespeare.
Ça pourrait être Shakespeare, évidemment.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette île de Grande Comore, elle était divisée en 7 sultanats différents, et puis un super sultan, le Ntibé. Est-ce qu'elle formait une société politiquement homogène ?
Très homogène, parce que les règles sont les mêmes. De façon que lorsqu'on était ministre dans un sultanat, on quitte le sultanat parce qu'il y a un conflit, et on va dans l'autre sultanat, on occupe le même poste, la même fonction. Et donc c'est une société très hiérarchisée mais homogène.
Deux contextes à ce récit. Le premier, c'est une grande sécheresse qui est arrivée aux Comores au XIXe siècle. Et puis le second, c'est l'impérialisme français qui est en embuscade. Alors commençons par le premier. Au XIXe siècle, les Comores, c'est une société prospère ou bien fragile économiquement ?
D'abord, Damir Ben Ali. Il a été dévasté par des invasions malgaches. Vous savez, lorsque les Européens s'installaient dans les Mascareignes, ils ont voulu avoir une main-d'œuvre d'esclaves. Donc il y avait des malgaches qui étaient chargés, qui venaient, qui étaient armés. Il y avait une guerre entre les pirates malgaches et les Comoriens, ce qui fait que pendant ce temps-là, les cultivateurs ne travaillaient pas, les champs étaient ravagés, les animaux étaient tués, ainsi de suite. Donc c'était déjà une société qui était très fragile.
Alors on ne va pas raconter toute cette histoire, tout ce récit, mais au final, Saïd Ali, le nouveau Ntibé, signe un pacte avec la France et les Comores deviennent un protectorat français. Pourquoi fait-il cela ?
Pourquoi ? Parce que il y avait un problème là. Saïd Ali n'était pas élevé à la Grande Comore. Donc il ne connaissait pas les règles. Donc quand il est devenu sultan, il se croyait comme le sultan d'Égypte ou de. Ce qui fait qu'il signait des accords avec ses alliés sans tenir compte des limites de son pouvoir réel. Alors là, il s'est trouvé que tout le sultan était groupé contre lui et pour pouvoir même rester dans le pays, il avait besoin des expéditions des françaises. Donc, chaque fois qu'il y, il y avait eu des attentats, il y a eu des rébellions qui étaient matées par les Français. Et chaque fois, il perdait aussi du pouvoir par rapport aux résidents de France qui étaient là. D'ailleurs, lui-même a été attaqué, ses propriétés étaient attaquées. Il a été enfermé dans sa propriété pendant 6 mois. Parce que pendant ce temps, il y avait aussi une rébellion à Anjouan, ce qui fait que les troupes françaises qui étaient à Mayotte étaient en juin, ils ne pouvaient pas venir à son secours, mais il avait une garde africaine armée qui le protégeait jusqu'à l'arrivée de l'exposition française qui l'ont délivré.
Un protectorat français, une colonisation française qui s'est interrompue en grande partie, on pourrait dire aux trois quarts, en 1975, avec l'indépendance de l'archipel. Mais est-elle vraiment interrompue, Salima Thubou?
Sur le papier, oui. Mais dans l'absolu, non. Et d'autant plus qu'on a une partie du territoire qui est restée française, c'est-à-dire la 4e île. Donc je ne sais pas, Mayotte, oui, je ne sais pas très honnêtement si ça c'est vraiment si l'indépendance est entière. Donc je ne crois pas, enfin moi personnellement. Je pense que sans le dire vraiment, on n'en est pas vraiment sorti, quoi. Donc c'est un peu ça, on est indépendant, oui, c'est vrai. Et nous sommes très très fiers de cette indépendance-là, mais nous l'essayerions encore si nous pourrions assurer l'avenir de nos enfants, assurer la protection de notre patrimoine, et donc voilà, vivre pleinement cette indépendance-là. Et puis je ne pense pas qu'on puisse parler d'indépendance avec une partie du territoire qui est encore sous administration française. Voilà.
Tamir Ben Ali, vous partagez ce point de vue exprimé par Salima Thubou?
Oui, dans une certaine limite, là, parce que Saïd Ali a été déporté et il a vécu 16 ans avant d'accepter de signer le protectorat. Donc, quand il a accepté, pas le protectorat, c'est la colonisation, l'annexion coloniale. L'annexion, c'était en 1912. Donc, il a accepté de signer, mais à condition qu'il le signe devant le président de la République française. Parce qu'il n'avait pas confiance au gouverneur, au français qui était là. Donc, la France avait accepté. Et au moment où il venait en France, il est passé à la Grande Comore. Donc, 16 ans après. Et quand il est arrivé à la Grande Comore, il a trouvé Karadjaï complètement défiguré. Il avait les cheveux jusqu'aux pieds, la barbe. Alors il l'a rasé lui-même, il l'a mis dans une coupe, les cheveux et la barbe. Il a mis de l'eau et il a bu. C'est un geste de reconnaissance parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Il était carrément prisonnier. Et là, ça a marqué aussi l'imaginaire collectif. Et ensuite, il est venu en France, il a signé là l'acte qui a annexé carrément la Grande Comore à l'ensemble des Comores, parce que il y avait un projet qui a été adopté par l'Assemblée nationale à l'époque pour l'annexion des Comores. Mais le Sénat français avait refusé parce que les sultans des autres îles avaient accepté la colonisation. Mais tant que Saïd Ali refusait de signer cela, les sénateurs avaient estimé qu'il ne peut pas annexer l'archipel. Donc l'arrivée de Saïd Ali en France, sa signature, avait permis l'annexion des Comores au domaine colonial français.
faudrait-il faire aujourd'hui pour parachever cette indépendance de l'archipel des Comores?
C'est le problème le plus difficile parce que
Damir Ben Ali.
La France a besoin, vous savez, il y a eu au moment où, les Comores proclamaient l'indépendance unilatérale, c'est pendant la guerre froide, et ce moment où Madagascar rompait avec la France, il y avait une révolution à Madagascar, donc les Français évacuaient leur base militaire de Madagascar. Donc la France voulait garder un point d'appui militaire dans la région, parce que c'était la route du pétrole à l'époque, du pétrole du Moyen-Orient, de cela. Bon, la situation a changé sur le plan de la guerre froide, mais probablement les intérêts de la France sont toujours là parce qu'il a installé des installations, ce qu'on appelle les grandes oreilles, où il écoute le monde entier. Là, il y a beaucoup d'installations militaires françaises à Mayotte, d'autant plus que maintenant il n'a pas il n'y a pas une rivalité entre la France et la Russie ou le bloc socialiste, mais il existe une rivalité intérieure parce que c'est une rivalité avec l'Amérique qui est dans le même camp et qui aussi a ses installations à Diego Garcia à côté de Maurice. C'est une île qui appartenait à Maurice mais qui l'a pris. Donc il y a ces intérêts là ce qui fait que lorsqu'il y a un chef de l'État comorien qui essaie de prendre beaucoup plus d'initiatives, il y a toujours des mercenaires qui débarquent et qui le débarquent. Ou bien il y a des Comoriens collaborateurs comme vous en avez connu ici à une époque tragique. Ce qui fait que tant que le problème de Mayotte ne sera pas réglé, les Comores ne seront pas véritablement indépendants.
Eh bien, on peut recommander aux grandes oreilles qui écoutent les émissions du Monde sur l'île de Comores d'écouter Radio Grenouille 88.8. Bonjour à vous. Peut-être pour conclure cet entretien, en juin prochain, une mise en espace, une mise en scène de ce récit par Julie Kretschmar. Julie, bonjour.
Bonjour.
Quelques idées déjà sur la forme que pourrait prendre Cara, une épopée comorienne au théâtre?
Quelques idées, oui. Une des idées premières, en tout cas, ou un des principes de ce travail-là, c'est d'abord d'être associée à une écriture qui est en train de se fabriquer. Ça, c'est une chose qui me passionne assez. Ça veut donc dire que j'aurai aussi de la latitude, j'imagine, à partir d'une première matière textuelle, de pouvoir la retravailler. L'idée, c'est de travailler avec trois acteurs, qui sont donc les trois figures, et de travailler avec un groupe de ce qu'on appelle les groupes de débat, qui sont ces groupes de femmes donc, qui existent à Marseille, et qui perpétuent, enfin qui animent, un corpus de danse et de chant traditionnel. Et voilà, donc c'est un des principes de ce travail, c'est d'associer en tout cas, de constituer une équipe franco-comorienne à des acteurs qui a priori viennent de l'archipel. Voilà, et moi, d'essayer de comprendre comment à partir d'un récit, empreinte tradition, etc., je continue à développer mon écriture, qui est une écriture formelle et esthétique, contemporaine, assez visuelle. Voilà, et ça me passionne assez, voilà, d'essayer de constituer un récit qui est une mise en fiction d'un récit historique, jouer en plein air, dans le cadre de la capitale culturelle, en plein air, et peut-être d'essayer de voir les échos que ça peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers. Voilà, enfin, il y a des petits sultans quand même dans les quartiers nord, il me semble. Enfin, en tout cas, on peut développer un imaginaire de ça. La lutte des territoires, tout ça, enfin, moi en tout cas, ça me raconte des tas de choses que je peux entendre par ailleurs, enfin, je sais pas, dans les paroles de rap, etc. Voilà, donc moi j'ai envie de mettre ça en lien de manière en tout cas la plus sensible possible.
En juin prochain, donc, Cara, une épopée comorienne.
Donc a priori, dans le parc du Grand Séminaire, qui est devant la mairie des 13-14, ou dans un autre équipement qui s'appelle le Théâtre de Verdure de la Sucrière. Voilà.
En attendant, samedi 17 novembre, c'est bien au banc public, une forme comptée cette fois-ci de cette épopée comorienne. Toute la programmation des rencontres à l'échelle se poursuit jusqu'au 23 novembre et elle est détaillée sur lesrencontresàl'échelle.com. Merci à vous.